l'info.
Vas-y l'info.
Bonjour à tous, bienvenue sur Loisir Info, la radio des enfants et des ados. Une radio éphémère réalisée par les enfants de l'accueil de loisirs et du passado de Saint-Saturnin.
Nous sommes Lina, Timéo et Roman, nous sommes heureux de vous accueillir.
Avec nous, autour de ce plateau radio, Angélique Mangon, journaliste qui a encadré ce projet mené par le cadre de l'été culturel. Bonjour Angélique.
Bonjour les journalistes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous avons préparé une émission très spéciale, enregistrée en direct et en public ici à l'accueil de loisirs de Saint-Saturnin.
Une émission unique en son genre qui conclut un projet mené pendant tout le mois de juillet.
Encadré par Angélique, nous, enfants et ados de 8 à 14 ans, avons endossé le rôle de vrais journalistes.
Carnet et micro en main, nous avons appris toutes les ficelles du métier, comment poser des questions, comment préparer une interview, mais aussi comment prendre des photos.
Puis nous sommes allés sur le terrain rencontrer des hommes et des femmes passionnés qui connaissent bien notre commune et son histoire et ses secrets. Et nous leur avons posé des questions.
Aujourd'hui, nous allons partager ces découvertes avec
vous.
Pour cela, nous vous proposons d'embarquer avec nous dans notre machine à remonter le temps.
Objectif, partir ensemble à la découverte de l'histoire du Saint-Saturnin et de Chadra.
Messieurs et mesdames, soyez les bienvenus à bord. Installez-vous confortablement dans votre siège, attachez votre ceinture de sécurité, ajustez les lunettes d'explorateur que vous pouvez trouver sur votre siège.
Vous êtes prêts ? Alors préparez vos oreilles. J'appuie sur le bouton. Décollage immédiat !
Chers passagers, chères passagères, comment allez-vous ? Toute l'équipe des reporters espère que vous n'êtes pas trop décoiffés par ce voyage dans le temps. Vous pouvez bien sûr garder vos lunettes ou les mettre sur votre tête si vous voulez quand même voir ce qui se passe.
Nous avons atterri sur les hauteurs du hameau de Chadra, sur le site de Montepo.
Vous ne reconnaissez rien ?
C'est normal. Après avoir traversé une faille spatio-temporelle, nous avons atterri il y a 40 millions d'années.
C'est pour cela que vous vous trouvez maintenant sur les rives d'un lac tropical. Vous allez sans doute croiser des crocodiles et des flamants roses.
Pas de panique. À bord de notre machine à remonter le temps, nous avons embarqué un super guide, Michel Asselin. C'est un membre de l'association Arcos qui œuvre pour la préservation du patrimoine de Chadra. Écoutez ses explications.
Bonjour Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons quelques questions. Pourquoi est-ce qu'il y avait un lac tropical à Chadra il y a 40 millions d'années ?
Justement, c'est dû à ce fameux rift continental, ce qu'on appelle le rift continental, c'est ce que vous avez appelé avant la grande faille de Limagne. Voilà, donc après, c'est propice à recevoir de l'eau.
Quelles espèces vivaient dans le lac ?
Dans les fossiles retrouvés, on a retrouvé beaucoup d'œufs de flamants roses, par exemple. On a aussi retrouvé à Ghana des rhinocéros, parce que c'était tropical. On a aussi retrouvé des tortues, puis différentes variétés de poissons dont on a vu un fossile tout à l'heure, Cobitopsis, qui était un petit peu avant, mais enfin, il y était quand même. Il n'y avait pas, par exemple, de dinosaures, de choses comme ça.
Comment le lac a disparu ?
Alors, en fait, il s'est complètement rempli. Il s'est rempli de sédiments, tout bêtement. Hein. C'est-à-dire, les sédiments, c'est tous les sables qui ont été apportés par le ravinement, les eaux, les ruissellements venus d'ailleurs. Donc, il s'est peu à peu rempli. Mais il faut savoir quand même qu'à l'époque gallo-romaine, enfin, donc, en gros, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, il y avait encore beaucoup de poches d'eau. Et comment dire, il y a encore un siècle, il y a des gens qui pouvaient se noyer en Limagne. Maintenant, on ne voit plus ça, bien sûr. On n'entend plus parler, mais il y a un siècle, il y avait des gens qui se noyaient parce qu'il y avait encore des trous d'eau.
Dans les environs de Chadra, On retrouve des stromatolites. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est ?
Oui, alors les stromatolites, c'est une bioconstruction. Alors, il faut des algues, il faut des cyanobactéries et il faut de la chaleur et de l'eau. Donc, c'est pour ça que ça s'est construit en Limagne, où il y avait, à cette époque, un climat tropical, on va dire. Et ces cyanobactéries ont permis de construire ces formes bizarroïdes, ces dômes qu'on appelle des stromatolites.
Quel type de pierre trouve-t-on à Chadra ?
On trouve de l'arkose. L'arkose, c'est une pierre sédimentaire, justement. C'est tous ces sédiments, ces petits sables qui se sont, ce qu'on appelle sédimentés, tassés, tout ça. Et en fait, ces sédiments, en fait, à la base, c'est du granit. Il y avait cette grande chaîne de montagnes qui était constituée de granit, qui s'est dissoute et sédimentée, qui est devenue de l'arkose. Et après, du calcaire. Quoi. Voilà. Et on trouve aussi de la lave. Donc la lave, on en trouve sur la montagne de la Serre, en haut, une coulée de lave qui a 3 millions d'années. Et en dessous, à Saint-Saturnin, où est construit le château, on a de la lave qui vient du Puy d'Avache et de la Sola, qui a à peu près 8000 ans, en gros, hein, 8300 ans.
Quelles espèces végétales et animales existent encore aujourd'hui ?
Au printemps, il y a énormément d'orchidées, par exemple. Et tout de suite, je vous ai fait voir, il y a de l'origan. Sur la montagne de la Serre aussi, c'est un lieu de migration important, un lieu de passage important pour les oiseaux. Donc il y a beaucoup d'oiseaux qui passent dans les périodes de migration, à la fin de l'automne et au printemps. Et ici, il y a, généralement, en temps normal, il y a beaucoup de milan. Le milan, c'est le rapace. Il y a deux sortes de milan. Il y a le milan noir et le milan royal qui tournent un peu la recherche de mulots, etc. Mais autrement, il y a tout un tas de petites faunes. Et ici, il y a un insecte qui s'appelle l'ascalaphe, qui est un petit peu jaune, qui est ni une libellule, ni un papillon. C'est un peu un intermédiaire. Autrement, il y a plein de papillons parce qu'on laisse à peu près pousser... chaque variété de plante a son papillon. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Bon, il y a plein d'oiseaux.
Comment est née votre passion pour la géologie ?
Alors, en fait, c'est en découvrant cet endroit. Moi, à la base, on va dire, je suis un grimpeur, un alpiniste. Donc, j'aime bien les cailloux, déjà. Donc, je vais toujours un petit peu voir de plus près. Et puis, comme j'habite à Saint-Saturnin, je voyais des trucs blancs qui sortaient un petit peu, là. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Je suis monté voir. Et puis, c'est là que j'ai vu ces stromatolites. C'est la curiosité, comme tout le monde, j'incite tout le monde à être très curieux, parce que ce n'est pas un vilain défaut. Il faut absolument être curieux et voir tout ce qui se passe autour de soi. Curieux des gens, curieux de tout. Et des rochers aussi, ils ont leur vie.
Je peux vous rajouter une question ?
Ouais.
Comment vous avez su que ça s'appelait les stromatolites ?
Stromatolites, alors effectivement, tout de suite je ne l'ai pas su. J'avais reconnu ces formes bizarres qu'on avait en dessous. Et j'ai appelé un copain qui est géologue de formation, un vrai géologue. Hein, parce que moi je ne suis pas géologue, je travaille dans l'aviation. Donc pas tout à fait pareil. Hein. Et en fait, il m'a dit, oula, c'est intéressant ça. Donc on a un petit peu creusé. Après, ça a creusé. On n'a pas creusé le sol, mais on a creusé dans nos idées, dans les traités de géologie, tout ça.
Merci Michel d'avoir répondu à nos questions. À bientôt.
C'était avec plaisir.
Chers passagers, chères passagères, avant que vous ne vous fassiez dévorer tout cru par un hippopotame, poursuivons notre voyage. Direction Saint-Saturnin, il y a 8600 ans environ, le volcan de la Vache La Solas viennent d'entrer en éruption et une immense coulée de lave comble désormais la vallée.
Gardez bien vos lunettes d'explorateur pour ne pas perdre une miette des explications qui vont suivre. Direction les gorges de la Mone avec Humbert Jacobet.
Bonjour Humbert Jacobet, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons vous poser quelques questions. Pourquoi ce Saint-Saturnin a été construit sur une coulée de lave ?
Parce que comme je vous l'ai montré, il y a des escarpements et probablement il y avait un intérêt défensif puisque avec les falaises, ça permettait de protéger les maisons. Mais il y avait un inconvénient aussi, c'est que du coup, il n'y avait pas d'eau. Et donc, d'un côté, il a fallu creuser des puits et de l'autre, il fallait chercher l'eau au pied des rochers, là où nous sommes allés à la Frédière.
Comment la Mone est-elle devenue une rivière ?
Ben, tu sais, on dit que les petits ruisseaux font les grandes rivières qui font elles-mêmes les grands fleuves. Alors, quand il pleut, il y a beaucoup de ruissellement et petit à petit, l'eau s'accumule. Mais il y a deux périodes de l'année où la rivière, elle chante beaucoup. C'est quand il y a la fonte des neiges et puis quand il y a des gros orages. Alors, à ce moment-là, elle se met en colère. On l'entend rugir et parce qu'il y a elle roule des pierres et ça fait des entrechoquements de galets. Et c'est assez impressionnant.
Pourquoi plusieurs lavoirs ont été construits ?
Parce qu'il y avait quand même pas mal d'habitants à Saint-Saturnin autrefois. Et puis, il fallait laver le linge. Et donc, il y en avait deux très anciens que vous avez vus auprès de la Monne, le Cru du Thieu et puis la Frédière. Mais alors, ensuite, dans les années 1880, on a capté des eaux de source pour alimenter tout un système de fontaines. Et il y avait au moins une bonne dizaine de lavoirs, un grand lavoir et un abreuvoir dans chaque quartier du village. Malheureusement, à notre époque, on était moins inspirés, on les a détruits.
Pourquoi êtes-vous passionné par l'histoire de Saint-Saturnin ?
Ah, ben, je suis passionné par l'histoire de Saint-Saturnin parce que j'y ai passé une partie de mon enfance, en tout cas toutes les vacances. Et puis surtout parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu un prêtre, le père Finet, qui était passionné d'histoire et qui a créé au château de Saint-Saturnin un son et lumière. Il y avait donc des tréteaux en bois, tout ça, des gradins pour le public. Il y avait même des chevaux. Et il a retracé toute l'histoire de Saint-Saturnin. Tout le village jouait. C'était les dames du pays qui avaient cousu les costumes. Il y avait de la très belle musique. Et on était figurants. On mimait par des gestes. Il y avait une bande sonore qui diffusait l'histoire depuis la création du monastère, les moines, après les chevaliers. Bref, toute l'histoire de Saint-Saturnin, la Révolution avec la Carmagnole et tout.
Avez-vous des secrets à nous raconter sur le village ?
Ah, des secrets ! Mon Dieu ! Ben d'abord, les secrets, tu sais qu'on ne les dit pas. Alors. Ici, tout le monde a ses secrets, c'est-à-dire les gens connaissent l'endroit où ils trouvent des champignons. Ils se gardent bien de les dire aux voisins parce que sinon, ils n'en trouveraient plus. Et du coup, moi, je ne sais pas bien quoi te répondre. Des secrets, oui. Des trésors, je n'en ai pas entendu parler. Des souterrains, tout le monde en parle. Mais ils n'ont jamais existé parce qu'il faut quand même creuser dans les rochers, ce n'est pas évident. Hein. Alors, des souterrains entre le château du Cray et puis Saint-Saturnin, et puis Montredon, où ça monte là-haut. Moi, je n'y crois pas beaucoup.
Merci, Humbert Jacomet, d'avoir répondu à nos questions. À bientôt.
Ah, ben, à bientôt, on va se revoir. Hein.
Loisir Info.
Loisir Info.
Sans perdre une minute, nous faisons un immense bond dans le temps. Bienvenue au XIIe siècle. Comme vous pouvez le voir à travers vos lunettes d'explorateur, que vous avez toujours, des hommes s'activent pour construire l'église de Saint-Saturnin sous le regard des moines bénédictins qui occuperont le prieuré.
Agnès Guillaumont nous raconte tout sur l'histoire de ce monument et de la fontaine construite 3 siècles plus tard.
Bonjour Agnès Guillaumont, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons poser quelques questions. Comment l'église s'est construite ?
En fait, on ne sait pas.
Pourquoi cette église est une église romane ?
Parce qu'elle est voûtée en berceau et qu'elle a des arcs en plein cintre. Donc tout est rond, contrairement à l'art gothique où les voûtes sont pointues.
D'où viennent les œuvres qui sont dans l'église ?
De partout et de toutes les époques. Vous en avez des anciennes, des récentes. Par exemple, le vitrail de Kim An-jong, c'est une œuvre du XXe siècle. Alors que la fresque de l'Annonciation est du XVIe siècle, par exemple.
Est-ce que c'est vrai qu'il y avait un trésor dans l'église ?
Je ne crois pas. Je ne suis pas au courant, en tout cas. Et puis, ça dépend de ce qu'on appelle trésor. Peut-être que tout ce qu'il y a dedans, ce sont des trésors.
Pourquoi les blasons de la fontaine ont-ils été effacés ?
Parce que celui qui a racheté le château ou qui en est hérité, il a voulu mettre son blason à la place et que l'on essaie d'oublier les propriétaires précédents.
Pourquoi vous êtes passionné par l'histoire des monuments de Saint-Saturnin ?
Parce que j'habite Saint-Saturnin.
Pourquoi ça vous intéresse autant ?
Parce qu'en fait, je me suis toujours intéressée aux œuvres d'art. J'ai été professeure d'art plastique Et donc, toutes les œuvres d'art m'intéressent.
Merci Agnès Guillaumont d'avoir répondu à nos questions et à bientôt.
Angélique, je crois que nos passagers sont un peu épuisés par cette traversée des époques.
Ouais, c'est vrai. Il serait peut-être temps de se détendre un peu, tu crois pas, Timéo ?
Oui.
Alors, on va mettre un petit peu de musique. Pendant ce temps, chers passagers, profitez-en pour vous dégourdir les jambes. Mais surtout, ne partez pas trop loin, sinon la machine à remonter le temps repartira sans vous. Vous avez 3 minutes, top chrono. Le temps d'écouter Risette de l'artiste Junter. A tout de suite. Il reste 1 minute avant la fin de la pause musicale. Vous pouvez tranquillement regagner votre siège.
Sur Loisirs Info, la radio des enfants et des ados. Chers passagers, nous reprenons notre voyage dans le temps. N'oubliez pas d'agiter vos lunettes d'explorateur. Regardez là-bas au fond, nous apercevons les remparts du château de Saint-Saturnin. Nous sommes maintenant à la fin du XIIe siècle. Avec Méric Blanc, notre jeune guide, nous pénétrons dans l'enceinte de cet édifice.
Bonjour Méric Blanc. Merci d'avoir accepté de nous guider et de répondre à nos questions.
Qui a construit le château au XIIIe siècle?
Alors, c'est le seigneur de la Tour, voilà, qui vient du petit village de la Tour d'Auvergne, qui donc a construit ce château pour en faire sa résidence principale.
Pourquoi le château a-t-il été construit?
Voilà, c'est pour se recentrer par rapport à toutes ses terres, parce qu'il avait plusieurs propriétés donc dans le département du Puy-de-Dôme. Et donc, pour se recentrer, il change de résidence principale pour Saint-Saturnin, qui était vraiment plus au centre.
Quelles rénovations ont été réalisées au fil des siècles?
Alors, il y a des rénovations militaires déjà. Il y a des tours qui sont rajoutées pour améliorer les défenses du château. Des tours qui sont rajoutées, mais aussi des bâtiments qui sont construits à l'intérieur du château contre les remparts pour en faire une résidence principale, agréable, voilà, avec leur terrasse, puis ensuite leur jardin au XVIIe.
Quels personnages célèbres ont vécu dans le château?
Alors, il y a beaucoup de personnages célèbres, oui, qui sont passés dans le château. Vous avez Catherine de Médicis, la reine de France, qui a vécu quelques temps, deux journées au château et une nuit. Mais il y a aussi la reine Margot, qui est revenue plusieurs fois au château. Déjà, elle a été emprisonnée pendant 6 jours. Puis ensuite, on pense qu'elle est repassée après sa captivité quelques fois au château de Saint-Saturnin.
Pourquoi le jardin a-t-il été aménagé?
Alors, c'est qu'on est bien après le Moyen-Âge, donc on ne craint plus les attaques. Et le comte de Breuil, qui était propriétaire du château, a décidé d'aménager d'immenses jardins pour impressionner déjà les habitants des alentours. C'est pour montrer, sa richesse. Et donc, voilà, comme à l'époque, on faisait des jardins à la française, très grands, ici de 4 hectares.
Pourquoi le château a-t-il été utilisé comme chocolaterie, orphelinat et hôpital?
Le château, du coup, a été spolié à la Révolution française. Il a été pris au comte de Breuil. Et ensuite, ce sont des propriétaires privés, enfin, voilà, des particuliers qui reprennent le château, donc de familles bourgeoises. Voilà. Et donc, le château, il passe plusieurs étapes. Il a été pendant un petit moment une chocolaterie, mais aussi un orphelinat, puisqu'il a été donné à des bonnes sœurs, les bonnes sœurs de l'ordre de Saint-Vincent de Paul, et donc qui ont fait un orphelinat pour accueillir les enfants, et ce jusque dans les années 1970. Et ensuite, elles ont dû abandonner le château, puisque le château était trop dangereux. Il commençait à tomber en ruine, donc elles ont dû l'abandonner.
Pourquoi a-t-il été protégé au titre de monument historique?
Et bien ça, c'est parce qu'il a été récupéré donc, dans les années 90. Il a été racheté par deux propriétaires. Et donc, ils l'ont fait classer au monument historique pour pouvoir le restaurer. Voilà, ça permet d'obtenir des subventions de l'État qui permet de protéger ce château qui était celui des comtes d'Auvergne, celui de la reine Catherine, et donc qui a une véritable valeur historique.
Merci Méric Blanc d'avoir répondu à toutes nos questions. À bientôt.
Je vous remercie d'être venu au château et de m'avoir posé toutes ces questions, ça me fait plaisir.
Restons encore un peu au château et édifice emblématique de notre village. Rapide retour au XXIe siècle pour rencontrer son propriétaire actuel, Emmanuel Pénicaud.
Bonjour Emmanuel Pénicaud, merci d'avoir accepté notre invitation.
Pourquoi avez-vous acheté le château?
Pour essayer de le sauver, de continuer à le sauver. Tu sais, c'est un château qui était presque en ruine en 1970. Nos prédécesseurs ont commencé à le sauver et on l'a acheté pour continuer de le sauver, pour que les générations futures puissent continuer à le visiter.
Pourquoi ça coûte très cher d'entretenir un château?
Parce que c'est grand, parce que les murs sont très vieux, parce que les tours sont très vieilles, les charpentes sont très vieilles et parce qu'il y a beaucoup de jardins.
Est-ce que ça fait peur de vivre dans un château?
Ah, de vivre dans un château, non, ça ne fait pas peur. Mais d'avoir la responsabilité d'un monument historique aussi important, ça fait un peu peur, oui.
Est-ce qu'il y a un passage secret dans le château?
Ah oui, bien sûr, il y en a plusieurs. Mais vous ne les avez pas vus. Ils sont bien cachés.
Avez-vous des histoires secrètes à nous raconter?
Je vais vous raconter l'histoire d'un des passages secrets. Il y a dans un endroit où on peut traverser tous les murs du fossé pour rejoindre l'endroit où vous avez vu le jardin Renaissance. Avant que ce soit un jardin Renaissance, c'était un clos militaire au XIVe siècle qui permettait de dominer la vallée d'Amon et de contrôler le risque que les ennemis rentrent dans cette vallée et attaquent le village par derrière. Alors les gardes du château, ils descendaient dans le jardinet médiéval et à travers les passages secrets des deux murs du fossé, ils rejoignaient cet endroit-là pour surveiller la vallée de la Monne.
Pourquoi gardez-vous le château ?
Le château, il a 800 ans déjà et on espère qu'il va vivre encore 800 ans. Et moi, j'ai déjà 71 ans. Est-ce que vous croyez que je vais pouvoir m'occuper du château jusqu'à la fin du château ?
Non.
Ça ne marche pas, hein ? Donc, il faut que je trouve un nouveau serviteur.
Merci Emmanuel Pénicaud d'avoir répondu à nos questions. À bientôt.
Merci à vous d'être venu surtout.
Nous avons encore changé d'époque et de lieu. Nous voici maintenant au XXe siècle dans les rues de Chadra. Les habitants sont essentiellement des agriculteurs. Ils cultivent ici toutes sortes de légumes et de céréales. Et le soir, lorsqu'ils rentrent des champs, ils font une pause dans l'une des 9 fontaines pour que leurs animaux s'abreuvent.
Notre guide pour cette étape est Annie Millien, également membre de l'association Arcos.
Bonjour Annie Millien, merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi Chadra s'appelle Chadra ?
Je ne sais pas l'origine du nom Chadra.
Avant, il y avait beaucoup d'agriculteurs à Chadra. Que cultivaient-ils ?
Il y avait de la vigne, des céréales, de l'herbe, mais également des pommiers et d'autres animaux. Chacun avait un cochon, des poules, des lapins, des canards. Tout était pratiqué au niveau ferme sur Chadra.
Pourquoi aujourd'hui n'y a-t-il plus que 2 agriculteurs ?
Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a eu l'implantation de Michelin à Clermont-Ferrand. Et Michelin cherchait de la main-d'œuvre, c'est-à-dire des hommes et des femmes pour travailler. Donc beaucoup de personnes sont parties travailler sur Clermont en allant prendre le car dans l'allée des Marronniers à Saint-Saturnin. Et les personnes qui n'avaient que de tout petites surfaces de terre, c'était compliqué de vivre. Donc ces surfaces de terre ont été regroupés, on a appelé ça le remembrement. Donc ça a été la deuxième cause qui a fait que beaucoup de personnes ont quitté l'agriculture pour aller vivre en ville ou travailler en ville et revenir le soir habiter simplement sur Chadra.
Pourquoi y a-t-il 9 fontaines et 2 lavoirs ?
Alors les fontaines sont très précieuses à Chadra pour plusieurs raisons. La première, c'était, je vous l'ai dit, par rapport aux incendies, pour pouvoir combattre en cas d'incendie. Ensuite, pour pouvoir avoir de l'eau pour nous, abreuver les animaux, mais également pour pouvoir utiliser en usage domestique, c'est-à-dire faire la vaisselle ou alors tout simplement boire et cuisiner. Et elles ont plus de 100 ans. Le réseau est là depuis plus de 100 ans et les habitants de Chadra, ils sont très très attachés. Ils les nettoient, ils les surveillent, ils les font réparer parce qu'ils se rendent compte que c'est vraiment vraiment important.
Comment le four banal est utilisé aujourd'hui ?
Alors le four banal est allumé environ 6 ou 7 fois par an et ce four est utilisé pour tous les habitants, c'est-à-dire que l'on cuit aussi bien le pain, mais on peut y emmener des desserts, on peut y emmener des flammekuches, des pizzas, des pommes de terre, des pieds de cochon gratinés, enfin ce qui vous fait plaisir. Tout peut être cuit dans le four de Chadra.
Pourquoi vous intéressez-vous tellement à l'histoire de votre village ?
Bien, tout simplement parce que je trouve que lorsque l'on habite dans un lieu, c'est bien de s'intéresser à ce qui nous entoure. Et l'autre phénomène, c'est qu'en s'intéressant, on rencontre d'autres personnes. On rencontre des personnes qui sont plus âgées et qui vous racontent la vie du village, qui vous racontent ce qui se passait autrefois, qui vous racontent comment on vivait autrefois. parce que moi, je n'étais pas là ou je ne me souviens pas tout. Donc, c'est très important que les personnes en parlent, racontent, décrivent, montrent, pour que tout le monde se souvienne.
Merci, Annie-Emilien, d'avoir répondu à nos questions. À bientôt.
Merci de nous avoir écoutés. Nous laissons la place à Naïm et Auguste pour vous guider dans ce voyage dans le temps.
Merci, à bientôt.
À bientôt. Merci et à bientôt.
Goodbye.
Loisir Info.
Loisir Info.
Ah. Bonjour les garçons, bienvenue à bord de cette machine à remonter le temps. Est-ce que vous êtes prêts?
Ouais. Oui.
Ok, et eh ben, c'est à toi Naïm.
Toujours au XXe siècle, le bourg de Saint-Saturnin est très animé. Dans les rues, les habitants se croisent, se saluent, les poules se baladent et grimpent sur le tas de fumier entreposé devant les granges.
Né pendant la Seconde Guerre mondiale, Jean-Pierre Tixeron a passé sa vie à Saint-Saturnin.
Et il a notamment contribué à la réalisation d'un documentaire. On laisse Jean-Pierre Tixeron nous guider à travers les rues animées du village.
Bonjour Jean-Pierre Tixeron. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Eh bien bonjour à vous. Donc bienvenue dans ce village de Saint-Saturnin, ce village historique de Saint-Saturnin.
Comment était la ville à Saint-Saturnin pendant la guerre ?
Ben, la ville pendant la guerre, les hommes étaient partis au front. Et c'était les épouses et les enfants qui travaillaient les fermes et qui faisaient vivre la famille.
Était-ce difficile de trouver de la nourriture pendant la guerre ?
Non, parce qu'on vivait dans un milieu paysan, dans un milieu rural. Donc la consommation, l'alimentation venait surtout de ce que les paysans produisaient. Donc il n'y a pas eu de problème d'alimentation.
Que cultivez-vous et quels animaux aviez-vous ?
Eh bien, depuis que je suis né en 1941, donc le village, pendant de nombreuses années, jusque dans les années de l'exode rural, si l'on peut dire, donc les gens vivaient avec quelques vaches, quelques moutons, un cochon, et puis donc ils produisaient du blé, ils produisaient des céréales.
Quelles difficultés rencontriez-vous dans ce métier ?
Ben, le monde agricole, à l'époque, il était peu développé, hein, parce que c'était ce qu'on appelait le tout à bras. Donc, c'était très, très pénible. Hein. Mais bon, les gens étaient habitués à ça, à travailler avec le feu-sou, travailler les blés, travailler les vignes. Donc, c'était quand même assez pénible. Hein. Et puis, les journées étaient longues.
Quelle était l'ambiance dans le village ?
Ben, l'ambiance du village, elle était... Je dirais pas monotone, parce que le village, il y avait beaucoup de vie, il y avait des animaux, des chiens, des chats, et puis les gens qui échangeaient, qui partageaient. Donc il y avait le soir les gens qui se mettaient, en été, qui se mettaient devant la porte, puis qui échangeaient. Au même titre qu'il y a eu les veillées, où les gens se réunissaient pour casser les noix, et puis même se rencontraient dans les étables. Parce que bon, dans la maison, il y avait juste un chauffage. C'était le chauffage central, si l'on peut dire, un seul fourneau alimenté par du bois. Mais les gens se rassemblaient surtout dans les étables parce qu'il y avait la chaleur des bêtes. C'était beaucoup plus agréable.
Est-ce qu'il y avait des querelles dans le village ?
Ah ben oui, il y a toujours eu des querelles. Bon, c'est vrai qu'il y avait quelquefois entre les familles, il y avait des tensions, mais bon... C'était pas mis à jour comme aujourd'hui, quoi.
Quel commerce y avait-il à l'époque ?
Il y avait deux boucheries, il y avait deux bistrots, il y avait un sabotier, le maréchal Ferrand, une personne qui allait saigner les cochons, donc une boucherie, une charcuterie. Enfin, on vivait, je dirais, en autonomie pratiquement. Hein.
Est-ce que les prix étaient plus ou moins élevés qu'aujourd'hui dans les commerces ?
Ben, si on fait un rapport de cette époque, bon, c'est vrai que les gens produisaient beaucoup, donc on achetait très peu, parce que c'est pas comme maintenant où les armoires sont remplies je dirais, d'habillements. À l'époque, on avait 2 ou 3 paires de pantalons. Pour les dames, il y avait peut-être 2 ou 3 robes. Puis les enfants, c'est vrai que c'était, comme on disait si bien, usé jusqu'à la corde, quoi. Donc la vie n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. La société de consommation était moins présente qu'aujourd'hui.
Pourquoi y a-t-il moins de commerce aujourd'hui ?
Parce qu'ils ont disparu au fil des ans. Donc il y a eu l'ouverture des grandes surfaces. Mais ça, bon, c'est à peu près à partir des années 1980. Et l'ouverture des grandes surfaces, donc on fait que. Puis l'exode rural fait aussi que les villages sont un peu dépeuplés.
Pourquoi avez-vous passé autant de temps à Saint-Saturnin ?
Ben moi, c'est-à-dire que je suis né dans ce village de Saint-Saturnin, je vous l'ai déjà dit, en 1941, donc je suis très attaché à ce village, aussi bien sur son plan humain que sur son plan, son plan historique. C'est pour ça que je m'attache, tant que la mémoire ne me fait pas trop défaut, à pouvoir transmettre cette mémoire à des jeunes comme vous voyez, et puis même des touristes qui viennent, voilà.
Merci Jean-Pierre Tixeron d'avoir répondu à nos questions. Au revoir.
Eh bien, mais c'est moi qui suis très heureux de vous avoir accueilli dans ce village, de vous avoir raconté un peu mon histoire et celle du village. Bon, je ne sais pas tout, bien sûr, mais tout ce que je sais, je le transmets. Voilà, et ça, c'est très important.
Quelques décennies plus tard, à la fin des années 80, le jeune Eric galope dans les rues du village encore bien différent qu'il est aujourd'hui.
Rencontre avec Eric Baron, un enfant du village qui a grandi sur la place du 8 mai.
Bonjour Eric Baron, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Pouvez-vous nous décrire votre enfance à Saint-Saturnin ?
J'ai eu une enfance pleine de liberté, très heureuse, dans un petit village qui est encore à l'époque, il y avait quelques vaches dans le village. Donc du coup, c'était une enfance très heureuse.
Pourquoi vous sentiez-vous plus libre que les enfants d'aujourd'hui ?
Ben, on jouait tout le temps dehors. Dès qu'il faisait beau, on était dehors. C'était ça tous les jours, quoi. Enfin, donc du coup, on avait de la liberté, on n'avait pas les parents sur le dos.
Quelle évolution avez-vous vue dans le village ?
Énormément d'évolution, oui. Énormément d'évolution, le goudron de la place. Là où nous sommes, il y avait une décharge, là, un gros trou, qui était aussi bas que celui d'à côté. On est sur le terrain, à côté des tennis, derrière la grange de mai. Et maintenant, c'est un parking. Il y avait des tennis, déjà. Et il y avait juste un petit parc de jeux, avec 3 balançoires, une pataugeoire. Et c'était suffisant pour nous.
Jusqu'où s'étendait alors le village ?
Ça s'arrêtait là. Il y avait la grange de mai. Après, il n'y avait pas de maison dans les chemins. De l'autre côté du village, donc ça a toujours touché cet amant. Et de l'autre côté, il y a un lotissement qui s'était fait en partant sur Champé.
Avez-vous des histoires drôles à nous raconter sur votre enfance ?
On avait un manège, c'était le garde champêtre, qui avec son tractopelle, on montait dans la benne et nous mettait au-dessus de la décharge pour faire comme un manège. c'était assez drôle.
Vous êtes tailleur de pierre, en quoi consiste votre métier ?
Justement, de tailler la pierre pour qu'elle aille sur un édifice.
Comment cette passion a-t-elle débuté ?
Ah bah, je pense depuis mon enfance, en habitant dans un village en pierre. À l'époque, au château, en fait, on pouvait visiter le château, c'était gratuit pour les moins de 11 ans. Et avec un copain, en fait, on était tous les samedis, les dimanches et l'été, en général, on allait jouer dans le château. Donc oui, le château, je le connais bien aussi. Et de voir, en fait, de vivre, de jouer dans cet édifice, en fait, ben, ça donne envie, quoi. C'est comment on fait Donc du coup, moi, ça m'a toujours intéressé. Être entouré de pierres tout le temps, jouer dans la pierre, enfin voilà, ça m'a un peu guidé. Et dès que j'ai touché des outils, en fait, c'était presque inné, donc du coup, j'ai continué.
Pourquoi aimez-vous votre métier ?
C'est un métier qui est très dur, mais une fois fini, c'est magnifique. Donc du coup, c'est l'aboutissement qui est intéressant.
Merci Eric Baron d'avoir répondu à nos questions. À bientôt.
Il n'y a pas de quoi, c'était vraiment avec plaisir.
Chers passagers, chères passagères, la fin de notre voyage dans le temps approche. C'est l'heure d'une nouvelle pause musicale, 4 minutes cette fois, pour vous dégourdir les jambes sur le son de Chill Trap de Harry's Beats. Quand on s'entraîne, on fait du rap, mais là on n'ose pas trop quand même.
Ah, ah.
Non, 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 s'il te plaît.
Naïm et Auguste, pouvez-vous nous dire ce que vous faites à l'accueil de loisirs? Voilà, je vous disais, ils sont timides.
Bah rien. On fait rien, on s'amuse pas, on fait rien. On attend, on fait que d'attendre.
Il reste 2 minutes. Plus qu'une minute et nous repartons dans notre voyage dans le temps.
Vous écoutez toujours Loisirs Info, en direct de l'accueil de Loisirs Saint-Saturnin. C'est bientôt la fin de notre voyage dans le temps. Nous voici maintenant au XXe siècle.
XXIe, pardon.
Comment vit-on aujourd'hui à Saint-Saturnin?
Qu'est-ce qui rend ce village si différent et unique? Pourquoi ses habitants l'aiment tellement?
Notre équipe de reporters est allée à leur rencontre pour recueillir leurs témoignages. Écoutez.
Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le village?
J'aime bien l'école parce qu'elle est juste à côté de chez nous. Et j'aime aussi bien voir les copines vu qu'elles sont pas très loin de chez moi. Et aussi le parc, je l'aime bien.
Le parc?
Pourquoi?
Parce que c'est trop bien.
L'école, elle est juste à côté de nous. Du coup, au lieu de prendre la voiture, d'user l'essence et tout, du coup, on y va à pied.
Ben, son architecture, la nature, la proximité de la nature, le calme.
Ce que j'aime le plus dans le village, c'est la rivière, je crois. De pouvoir aller à la rivière le matin comme ça, hop, je me baigne, je fais un peu de yoga et après je reviens chez moi. Ouais, c'est froid, mais ça fait trop du bien.
J'aime bien le château, l'église, tout ça, l'ambiance qu'il y a dans le village. Et que ce soit pas trop proche de Clermont, mais pas trop loin non plus.
En fait, tout le monde se connaît dans le village, donc voilà, c'est ça, cette proximité-là. Et ouais, de compter sur tes voisins, quoi, t'es pas toute seule, voilà.
Quel est ton endroit préféré ?
Mon endroit préféré, c'est vers la Monne. Bah, parce que la rivière, elle est très jolie.
Le parc.
C'est juste devant chez moi, ça s'appelle une place. Et c'est à côté de l'école aussi. Il y a un parc.
J'aime bien la Frédière ou vers la Faisanderie là-bas quand tu vas direction Chadra.
Mon endroit préféré, je dirais, c'est la place qui est vers le château, avec la fontaine là-haut, avec l'église aussi.
Et aussi ma terrasse, parce que j'ai une super vue avec un trop beau coucher de soleil.
As-tu déjà participé à un événement dans le village ?
Oui, à plein.
Lesquels ?
Les fêtes du village, les fêtes de la musique, les interquartiers, les expositions, les jours de lumière. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Le marché de la création. Et c'est déjà pas mal, hein.
J'avais participé à la foire du 1er mai. Et il y avait aussi un interquartier. C'était les quartiers du village qui font des petites épreuves et tout ça.
Avec des copains, on a créé une asso et on organise des événements dans la Grange de Mai. Des concerts et des fêtes comme ça. Et du coup, c'est trop bien parce qu'à chaque fois, il y a plein de gens. Il y a au moins 200 personnes à chaque fois, des enfants, des adultes.
Aimerais-tu déménager du village ?
Non.
Non.
Je sais pas parce que... Enfin, j'hésite un petit peu avec un autre village. Mais Saint-Saturnin, c'est très joli, alors je pense que je vais rester là.
Plus tard, oui, mais c'est plus pour mes études, pour me rapprocher un peu de la ville, c'est plus simple.
Un jour peut-être, mais pour l'instant, non, je suis très bien ici.
Parce que c'est trop bien, Saint-Saturnin.
Chers passagers, chères passagères,
préparez-vous maintenant pour l'atterrissage de notre machine à remonter le temps.
Vous pouvez enlever vos lunettes d'explorateur et les garder en souvenir de cette folle aventure.
Attention, Auguste, tu es prêt à appuyer sur le bouton ?
Oui.
Eh bien, c'est parti. Tranquillement. Tranquillement, nous atterrissons ici. Et maintenant, nous sommes le 28 juillet 2023, il est 18h01, à l'accueil de loisirs de Saint-Saturnin. La température extérieure est d'à peu près 29 degrés.
On vous laisse de vous remettre de vos émotions. Et pour finir, nous recevons une invitée spéciale, sans qui tout ce projet n'aurait pas lieu.
Bonjour Karen.
Bonjour.
Tu es la directrice de l'accueil de loisirs ?
Oui, tout à fait.
Pourquoi as-tu organisé ce projet avec les enfants de l'accueil de loisirs et du Passado ?
Eh bien, cette année, pour l'été, on souhaitait travailler sur la communication, le partage. Et quand Angélique nous a proposé ce projet, je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour connaître Saint-Saturnin et échanger avec toutes les personnes du territoire.
Que penses-tu que ça nous a apporté ?
Alors, beaucoup de connaissances, autant sur le métier de journaliste, les outils informatiques, que sur la connaissance de Saint-Saturnin à Chadra. Mais ça vous a super motivé aussi pour réaliser cette émission aujourd'hui.
Et que penses-tu du résultat ?
Ah bah c'est génial, on était à fond jusqu'au dernier moment. Les journalistes étaient super pressés de pouvoir enregistrer cette émission. Donc autant l'émission que les photos, l'expo qu'on va avoir dehors, c'était génial.
Merci Karen d'avoir répondu à nos questions.
De rien, merci d'avoir fait tout ça.
Et à mon tour, j'aimerais poser quelques questions à nos apprentis journalistes. Vous êtes prêts les garçons ?
Oui.
Alors Auguste, qu'est-ce que tu as pensé de ce projet ?
J'ai bien aimé.
Et pourquoi ?
J'ai bien aimé parce que j'ai bien aimé.
D'accord. Est-ce que Naïm, tu vas nous en dire un petit peu plus ? Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce projet ?
Bah, le truc qui m'a le plus plu, bah, c'est
parler dans un vrai micro avec des vraies personnes et pas avec l'imagination.
Ok, et qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile ?
Garder son stress et pas de...
Rester concentré peut-être ?
Voilà.
Et toi, Auguste ?
Pareil.
Ok, super, merci. Et ben, merci à vous, merci à Lina, Timéo, Roman, Naïm et Auguste d'avoir animé cette émission aujourd'hui. Bravo à vous et bravo à tous les enfants qui ont participé à ce projet et qui ne sont malheureusement pas tous là aujourd'hui. Il y a Jean-Baptiste, Dimitri, Lorenzo, Anaé avec un H et Anaé sans H, Noémie, Margot, Lou, Antonin, Mélissa et tous les autres dont les prénoms sont inscrits sur les affiches de l'exposition photo que on vous invite à venir voir après en partageant un verre de l'amitié. D'avance, on s'excuse un peu pour les petits bruits qui ont pu parasiter certaines interviews, mais l'expérience, ça prend du temps à s'acquérir, évidemment. Merci également aux animateurs et aux animatrices de l'accueil de loisirs. Pardon Naïm, c'est à toi de dire ça.
Et au passado.
On refait tout de suite.
Merci également aux animateurs et animatrices de l'accueil de loisirs du passado. Laurie, Marie, Sébastien, Hugo et Elena pour leur implication.
Merci Karen.
Karen Chaderon, donc, directrice de l'accueil de loisirs, et à Louis Perreton, directeur du Passado, ainsi qu'à toute l'équipe de la communauté de communes Mont d'Arverne pour m'avoir accordé leur confiance dans la réalisation de ce projet. Et surtout, merci à vous tous qui avez accepté de nous recevoir, qui avez pris le temps pour ça, pour nous recevoir et pour répondre à nos questions. Jean-Pierre Tixeron, Éric Baron, Michel Assolan, Annie Milien, Agnès Guillaumont, Méric Blanc, Emmanuel Pénicaud et Humbert Jacomet. Et merci aussi à Mathis qui a assuré la réalisation technique de cette émission. Et avant de nous quitter, j'ai une petite surprise pour vous.
C'est parti quand tu veux. Parle bien en face.
Ça tombe.
Ouais, ça tient pas. Mais bon.
Ça tient pas.
Vous avez des petites oreilles.
Qui bouge pas, c'est bon.
Pourquoi vis-tu à Saint-Saturnin ?
Et alors l'introduction et tout ?
T'as pas fait tout l'intro ? Aujourd'hui, nous allons interviewer Sacha. Nous allons vous poser quelques questions.
Comment il s'appelle Lucas ?
Bonjour à tous.
Ouais. Je te jure.
Mais le rythme, c'est bien. Mais
La radio des enfants et des ados.
Ouais.
La radio des enfants et des ados.
Allez, on essaie.
Ça tourne.
Bonjour à tous et bienvenue.
Voilà, ça tourne. Hein.
T'as encore une question là ? Ah oui. Non. Ah non ? Bon.
Coupé ! Coupé !
Le jingle de cette émission a été réalisé sur le titre Spark de l'artiste Vexanto.
L'émission sera bientôt diffusée sur le site
www.surlaroutedelapachamama.com.
Les enfants, je vous laisse le dernier mot avant d'aller partager un petit verre de l'amitié et de voir l'expo.
À bientôt sur Loisirs Info,
la radio des enfants et des ados.
Loisirs Info.
Loisirs Info.